France Inter. Le masque et la plume. Des films à l'affiche, c'est le sommaire de l'émission du jour avec l'histoire de la Russie contemporaine et l'ascension de Vladimir Poutine, mise en scène dans Le Mage du Kremlin d'Olivier Assayas. Au programme, un mélodrame intitulé Diamanti, qui a remporté un grand succès en Italie. Des longs-métrages inspirés de personnages réels, Furci Madeleine, dont Furci né libre, dédié à la mémoire de l'esclavage et réalisé par Abdal Malik. Il sera aussi question de la vie de Shakespeare, incarnée par Paul Mescal dans Hamnet, de Chloé Zhao. Et enfin, nous débattrons de l'affaire Bojarski, réalisée par Jean-Paul Salomé, qui retrace la vie d'un faussaire de génie qui, lui aussi, a bel et bien existé. Ils sont réels et présents sur la scène du théâtre de l'Alliance française aujourd'hui. J'ai nommé Muriel Joudet, du journal Le Monde, Pierre Murat, tel qu'en lui-même, Charlotte Lipinska de Télématin et Jean-Marc Lalanne des Inrecuptibles, des critiques, des publics, des cinémas. Bonjour, bienvenue, voici Le Masque. La plupart de vos courriers, dont je vais tenter de vous lire les exemples les plus représentatifs, évoquent essentiellement trois longs-métrages cette semaine. Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch, film composé de trois histoires consacrées aux liens familiaux. Janine Lafargue d'Angoulême écrit être fidèle à Jarmusch depuis les années 80 et en ce début 2026, elle a eu l'agréable sensation de retrouver un vieux pote au café pour discuter de père, de mère, de sœur et de frère. En revanche, depuis la ville de Luxembourg, Daniel Le Guibre compare ce film à un goûter chez sa tante Marguerite quand il avait 10 ans. Sauf que chez Jarmusch, précise cet auditeur, les gâteaux sont sublimes. Ils nous ont aidés à tenir jusqu'à la fin du film. Vous vous enthousiasmez unanimement pour Ma Frère, du duo de cinéastes Lisa Coca et Romane Guéret, un film qui met en scène une bande de gamins d'un quartier populaire de Paris partis en colonie de vacances dans la Drôme. J'en suis sortie épatée par le talent des réalisatrices pour filmer à fleur de peau de la lave en fusion, écrit Pierre Moreau de Laval. Une claque politique, sociologique, philosophique, renchérit Marie-Paul Sestier de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Cette auditrice déplore qu'une des critiques de la Tribune ait réduit le film à une scène de baiser entre deux enfants, scène qu'il avait questionnée. À ce sujet, les producteurs de Ma Frère, Pierre Grimaud et Jean Datana, nous ont écrit « Il était pour nous absolument impensable et impossible de tourner cette scène autrement qu'avec des doublures adultes. » Vous êtes partagé concernant les échos du passé de Masha Chilinski. Frédéric Pavlik d'Audintich y a retrouvé la magie et le trouble ressenti à la lecture du dernier Goncourt, La Maison Vide, de Laurent Montvigné. Le film, comme le livre, retrace le destin de trois générations de femmes dans une même maison, témoin de l'éternel retour de l'histoire, précise cet auditeur. « J'y suis allée la fleur au fusil », écrit Mathilde de Paris. J'en suis sortie avec un cafard monstre. Je ne vous dis pas merci, conclut-elle. Enfin, concernant le prix des auditeurs du masque pour lequel vous pouvez continuer à voter, plusieurs d'entre vous nous demandent si Sirat d'Oliver Lakché concourt dans la catégorie film français ou étranger, et nous avons choisi de le placer dans la catégorie film étranger. Vous pouvez adresser vos votes à l'adresse lemasqueetlaplume@radiofrance.com en minuscule et tout attaché. On commence avec Le Mage du Kremlin, adaptation du best-seller de Giuliano da Empoli par Olivier Assayas. Il en a coécrit le scénario avec Emmanuel Carrère. En un peu moins de 2h30, on traverse 30 ans d'histoire de la Russie, depuis l'effondrement de l'URSS au début des années 90, jusqu'en 2019. 30 ans d'histoire racontée, parfois avec la reconstitution d'archives, et surtout à travers les révélations de Vadim Baranov, personnage très présent à l'image autant qu'en voix off. Baranov fut d'abord un homme de spectacle, metteur en scène de théâtre d'avant-garde, puis producteur de télé-réalité, avant d'être le conseiller d'un agent du FSB qui s'appelle Vladimir Poutine. Baranov est l'homme de l'ombre qui va façonner l'avènement de la Nouvelle Russie et l'ascension de Poutine. Au milieu d'un monde essentiellement masculin, sa compagne, Xenia, n'est dupe de rien. Paul Dano, Visage Poupin et Voix Douce et Vadim Baranov, Alicia Vikander et Xenia, et Jude Law interprète Vladimir Poutine. Charlotte.
Pour tous ceux qui ont lu le livre, c'est vrai que quand on disait, on se dit, cette histoire, le récit est formidable, c'est totalement inadaptable au cinéma, et je trouve que Olivier Assayas a fait un boulot très très étonnant, assez admirable dans cette adaptation, qui a une grande ampleur parce qu'on embrasse quand même 30 ans d'histoire russe, et ça nous donne, moi je trouve, quand même beaucoup de clés pour comprendre où en est la Russie aujourd'hui. Tu le disais, Rebecca,
avec... Et comment on en est arrivé là ?
Voilà, en partant de l'effondrement de l'URSS, avec le début du capitalisme sauvage qui a créé tous ces oligarques qui ont mis cet homme au pouvoir, et comment cet homme, donc Poutine, les a trahis les uns après les autres. Donc je trouve le film très stimulant intellectuellement, très foisonnant, mais un peu fastidieux aussi, parce qu'il y a cette voix off assez perpétuelle du personnage de Baranov, donc, qui quand même n'a pas existé, hein, qui est fictif. Il est très largement inspiré de Vladislav Surkov. Et il nous prend la main au début et il va nous murmurer à l'oreille, comme il murmure à l'oreille des puissants. Et en fait, au bout d'un moment, cette voix assez doucereuse, assez monocorde, elle est rude, quoi. Elle est rude, mais elle m'a un peu ensorcelée, comme elle a ensorcelé Poutine, et elle a un côté un peu asphyxiant que je trouve finalement assez cohérent avec le récit de ce pays qui peu à peu va être complètement asphyxié par Poutine lui-même. Après, il y a la convention de l'anglais qui peut heurter au début, mais moi je trouve qu'on l'accepte assez vite pour toutes les raisons qu'on imagine. Un budget de cette ampleur, il faut des grandes stars et il n'y en a pas en Russie, et quand bien même il y a des grands acteurs en Russie, aucun n'aurait accepté de jouer dans un film aussi clairement contre le pouvoir en place. Donc ça, c'est pas grave du tout. Et puis voilà, Paul Dano, Jude Law, ça marche, quoi. Ça marche vraiment. J'étais assez étonnée. Mais il faut un petit café, hein, quand même, avant.
Muriel.
Moi, je trouve que justement, enfin, j'ai pas l'impression que le film m'apprend autre chose que ce que j'ai déjà vu dans des documentaires sur Poutine. On est vraiment... et j'ai du mal à voir où est le point de vue d'Assayas et de Carrère sur les événements. Déjà, la première chose qui me pose problème, en l'anglais, c'est un vrai problème au sens où Poutine est quelqu'un qui s'astreint à ne pas parler anglais, mais je suis d'accord, à un moment il faut financer le film sur le nom de star, et d'ailleurs à ce titre je trouve que Jude Law, dont je pensais que ça allait être la catastrophe du film, est peut-être la chose qui m'a le plus intéressée, parce qu'il arrive à choper des trucs et il s'en sort hyper bien
sans être dans l'imitation,
par non ailleurs. Il a trouvé des trucs, des petites mimiques, et il le fait bien en toute décontraction, et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire la collision entre Poutine et un grand acteur. Et après j'ai un problème avec déjà Paul Dano, je trouve qu'il est dans la position du magicien comme ça qui tire les ficelles, je le trouve assez fantomatique, je trouve qu'il n'existe pas du tout, et je trouve que le personnage de Alicia Vikander est complètement sacrifié, c'est-à-dire on est encore quand même dans l'idée de la femme qui tend les mains comme ça au capitaliste, enfin qui va se jeter dans les bras du capitaliste, et finalement je me suis dit en fait j'aurais voulu avoir, et ça aurait changé beaucoup de choses parce qu'on ne le voit pas beaucoup, le point de vue de Xenia sur les faits. Et après formellement le film a quelque chose, une sorte de mini-série qu'on aurait un peu compressée, j'ai l'impression qu'il est un peu... fabriqué comme ça et pensé comme ça, et donc on a comme ça une grande fraise dont il nous reste plus grand chose à la sortie quand même, et il y a presque un paradoxe parce que c'est un grand geste qui est assez oubliable quand même quand on en sort, enfin moi il m'en reste plus grand chose.
Pierre.
Déception parce que non mais c'est un roman formidable, et puis c'est une odyssée, enfin le sujet est admirable, c'est la montée d'un tyran, la fabrication et la montée d'un tyran, tout ça est d'une platitude, je veux dire on devrait être bouleversé, pantelant, et ça m'étonne de la part d'Olivier Assayas qui revendique une admiration sans borne pour le cinéma américain que nous partageons tous les deux, mais dans le cinéma américain ce qui compte c'est l'efficacité, là on a une suite de duo. Alors, Baranov et son visiteur, Baranov et sa fiancée, Baranov et Poutine, Baranov et un autre, tout ça filmé le plus platement possible. Alors, on a des gens qui, face à nous, disent des choses intelligentes avec un côté morne qui finalement finit par envahir le film. Alors, les choses intelligentes, c'est bien, mais dites de façon aussi... Bon, non, c'est vraiment une déception, même si Jude Law, je le trouve vraiment très très bien.
Et alors, Baranoff et Jean-Marc Lalanne, ça donne quoi ?
Moi, je suis en désaccord avec beaucoup de choses qui ont été dites, notamment Paul Dano, que je trouve vraiment un acteur passionnant. Je trouve qu'il y a chez lui une capacité qui tient peut-être à ce physique poupin dont tu parlais, à faire jaillir... l'enfance, il joue vraiment un personnage qui a trahi sa jeunesse, qui avait comme ça un désir très fort pour la poésie, pour le théâtre, et qui s'est totalement vendu au capitalisme. Et la manière dont il rend toujours perceptible cet enfant qu'il a tué, je trouve ça assez bouleversant. Et par ailleurs, moi j'adore la clarté pédagogique du film. Moi je trouve qu'il y a une sobriété, une austérité qui aide le film à rendre tout très très déchiffrable. Et il y a une lisibilité, une intelligibilité de tout qui m'apprécie assez. Je trouve que le film est très efficace à sa façon, qui n'est pas celle d'un thriller, mais vraiment d'un cours d'histoire extrêmement tenu, extrêmement maîtrisé. Et j'adore la froideur du film, qui rend vraiment la matière de l'expérience sensible de la dictature. Donc moi, je trouve le film assez expressif et très réussi.
Alors, le micro circule si l'un ou l'une d'entre vous souhaite intervenir pour Le Mage du Kremlin d'Olivier Assayas. Non, aucun bras ne se lève. Et avant de passer à la suite, je vous signale d'ailleurs qu'une série intitulée Le Masque et Olivier Assayas réunit toutes les critiques concernant sa filmographie, plus une émission où Olivier Assayas fut critique lui-même à la tribune du Masque. Donc cette série, Le Masque et Olivier Assayas, est évidemment disponible sur l'appli Radio France. Après Le Mage du Kremlin, on continue avec Amnet, réalisé par la cinéaste chinoise Chloé Zhao, avec une distribution qui réunit Paul Mescal, dans le rôle de William Shakespeare, et Jesse Buckley, dans celui d'Agnès, son épouse. Une nouvelle fiction autour de la vie de Shakespeare, donc adaptée du roman de la Britannique Maggie O'Farrell. Ça commence par l'histoire d'amour entre William et Agnès, qui ont trois enfants, dont des jumeaux, et l'un d'eux, Amnet, meurt à l'âge de 11 ans. La mort d'Amnet fait vaciller le couple, et Shakespeare quitte le foyer pour écrire et monter Hamlet à Londres. Au-delà du lien entre la mort de cet enfant et l'écriture de la pièce, le film adopte le point de vue d'Agnès Shakespeare et se concentre sur son deuil à elle. L'actrice irlandaise Jessie Buckley a déjà été récompensée aux Golden Globes pour ce rôle et on l'a dit favorite pour l'Oscar de la meilleure actrice. Pierre ?
Ce que c'est beau ! Ah. Ce que c'est beau,
je veux dire. Je crains la suite. Non, mais quand on
commence comme ça, quand on commence à dire d'un film, ah, ce que c'est beau, quelle belle photo, généralement, ça finit mal. Et donc, ça va finir mal. Non, c'est beau, parce qu'il y a un plan absolument superbe. L'héroïne en robe rouille, dans une forêt verte, comme ça, avec un plan, mais on a envie de le prendre, de photographier, enfin non, pas vraiment, mais enfin, ça pourrait donner une toile.
L'accrocher dans ton salon.
Et tout est absolument comme ça, c'est-à-dire, c'est beau. Le problème, c'est que Chloé Zhao a beaucoup de talent, et elle avait fait en début de carrière deux films absolument formidables, que je cite très rapidement, Les chansons que mes frères m'ont apprises, et surtout The Rider, qui était un bijou. Et elle a du talent et il en reste ici. Il reste des traces de ce talent quand elle filme cette femme qui accouche seule dans une forêt. C'est très beau. Quand elle filme un enfant qui s'enfonce dans le néant, sauf que cette scène magnifique, elle la refourgue une deuxième fois à la fin. Alors, une fois ça va, deux fois ça va pas. Non. Et alors, ça fait partie de ces films qu'Hollywood adore, qui sont les reconstitutions historiques, parce que j'ai l'impression que ça leur donne l'impression d'être culturel. Alors, il y a 12 ans, ils avaient fait Shakespeare in Love.
Ouais, voilà. Ça n'a rien à voir, quand même.
Plutôt 30 ans que 12 ans.
non, il y a 35 ans.
Shakespeare in Love, 98.
Ouais, bon, enfin, mettons. Ans. Et puis, il y a 40 ans, ils avaient fait Le Lion en hiver avec Catherine Hepburn. Non, mais ça rassure, c'est Shakespeare, c'est culturel, c'est cultivé. Ça. C'est beau comme tout, et c'est pétrifié.
Charlotte. Alors, c'est beau comme tout, je suis d'accord avec toi, Pierre, et je peux pas te laisser dire que c'est pétrifié.
Ah
parce
si,
que
tu peux, quand même tu peux me laisser parce que je le dis.
Non,
alors, ça...
mais c'est organique, c'est très sensoriel. Ce personnage d'Agnès qui est en connexion avec la nature, qui communique avec la nature, c'est un peu une Belle des Champs ou Zora Larousse pour ceux qui ont la ref, elle est quand même très très étonnante. Moi j'aime beaucoup le film, mais je suis un peu embêtée par le fait que ce soit Shakespeare. C'est-à-dire que je trouve que cette image...
C'est fâcheux.
Oui, mais cette histoire, elle est magnifique en soi, elle est assez intemporelle. Et le fait, d'ailleurs, Shakespeare, on ne l'appelle Will qu'au bout de plus d'une heure de film, il n'est jamais nommé pendant toute la première partie, ça a l'avantage de remettre sur le devant de la scène sa femme, qui par ailleurs s'appelait Anne, pas du tout Agnès, donc c'est un peu l'oublié de l'histoire, et en ça, le film est vraiment très intéressant. Mais je trouve qu'il fait quand même un raccourci un peu rapide, parce que c'est une période de Shakespeare où on a vraiment clairement des trous dans la raquette, on ne sait rien de sa vie pendant ces années-là, et donc
d'où la possibilité de la fiction.
Oui, mais il faut dire que c'est une possibilité de fiction qui relie ces deux événements, la mort d'un fils et l'écriture de la tragédie d'Hamlet. Oui. Mais enfin, quiconque connaît Hamlet, c'est quand même plutôt l'histoire d'un fils qui veut venger la mort de son père, c'est pas du tout le deuil d'un enfant.
Et c'est idiot.
Alors qu'il y a plein d'autres fils à tirer, notamment la gémelléité, puisqu'il avait des jumeaux. La gémelléité se retrouve dans quasiment toute l'œuvre de Shakespeare, de la Comédie des Erreurs ou La Nuit des Rois. Là, ça me semble être un peu tiré par les cheveux.
Tu pourrais être scénariste à Hollywood.
Oui, non, mais il y a quelque chose qui, moi, m'a profondément émue quand même dans cette histoire, c'est la transcendance par l'art théâtral. C'est-à-dire qu'en effet, le théâtre est peut-être l'un des seuls médiums où on peut faire dialoguer des vivants et des morts. Et à ce titre, cette dernière scène, peut-être trop longue pour toi, Pierre, moi, je la trouve sublime sur cette transcendance-là et de faire revivre un mort, que ce soit un fantôme ou un spectre. Elle irrigue toute l'œuvre de Shakespeare et en ça, le film est sublime et Jesse Buckley est démente.
Il n'est pas sublime.
Jean-Marc.
Ah non, le film n'est pas sublime du tout. Il est presque nul, à mon sens.
Mais non, mais enfin.
Oui, t'as raison.
Effectivement, elle a un talent de fabrication des images, mais c'est moins des plans de cinéma que des fonds d'écran. Enfin, c'est vraiment une beauté totalement lisse. Totalement en surface.
Vous avez des cœurs de pierre.
Et surtout, moi, je déteste cette scène que tu trouves sublime. Il y a une manière de diriger l'émotion du spectateur que je trouve indécente. C'est-à-dire qu'elle, c'est une représentation d'Hamlet. Elle fait des gros plans sur le public, transi d'émotion, les yeux de plus en plus rougis qui sont bouleversés. Et je sens qu'elle vise un effet de contagion, qu'elle veut que ce soit ses spectateurs. Un peu comme quand dans une sitcom, il y a des rires en boîte pour stimuler les rires du public. Elle montre de fausses larmes pour fabriquer des vraies larmes parmi son public, et je trouve ça vraiment insoutenable. Et puis le féminisme du film, je le trouve totalement contre-productif, c'est-à-dire qu'il reconduit un imaginaire de la sorcière dont on a lu depuis très longtemps, de Michelet à Duras jusqu'à Mona Chollet, qui a retracé un peu l'histoire de la sorcière comme symbole féministe. Mais la façon dont le film répartit les tâches avec l'homme qui serait du côté de la société, de la création, et la femme qui, elle, est dans la fosse et qui n'est que de la sensibilité, et son seul génie, c'est la capacité de recevoir le génie de son mari, je trouve ça vraiment très problématique. Et j'ai l'impression que le film finit par dire le contraire de ce qu'elle voudrait dire.
Muriel ?
Oui, je suis totalement d'accord avec Jean-Marc. Ce personnage féminin est très gênant. Et même la scène où elle accouche toute seule entre les racines d'un
arbre. Ah, ça a plu à Pierre.
Bah non, mais moi j'étais là. Il est où le cordon ombilical, quoi ? Enfin, à un moment.
Ah oui, concrète.
Je te dis, mais c'est beau, mais c'est complètement crétin.
Il y a un moment quand
c'est beau.
Enfin, on attend un regard féminin sur qui filme la maternité, juste l'accouchement. Et j'étais là. On est encore dans un imaginaire publicitaire, fond d'écran. Enfin. Et le film est très très bizarre, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette fin, on est obligé de parler de la fin, parce que le film est hyper mal écrit, parce qu'on a une heure et demie, on ne comprend pas de quoi ça parle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quel est l'enjeu, on a l'impression que Chloé Zhao fait un film où elle se dit « Ah, mais là je suis libre, je vais faire un film d'auteur avec de la durée qui dure, des panoramiques et tout ça. » Et en fait, elle ne maîtrise pas du tout les codes de ce cinéma d'auteur-là. C'est ce que tu disais, c'est-à-dire le film faussement intello, mais qui est en fait plus proche d'un film Disney. Donc on a une sorte de radicalité Disney très bizarre, et tous les enjeux du film sont à la fin. Et en plus, je trouve ça terrible sur Shakespeare, parce qu'en fait, on est en train de psychologiser et d'aplatir complètement justement ces trous de la raquette qu'il y a. C'est-à-dire, on est en train de dire... Et là, on peut spoiler, parce qu'en fait, on s'en fiche. C'est-à-dire, il a perdu un fils, donc il a écrit Hamlet.
Oui, ça, c'est
OK, merci. Quoi.
C'est une bêtise.
Voilà. Et donc, tout est bizarrement, à la fois, se veut radical chic, et en même temps, est complètement mièvre.
Mais moi, je ne vois pas du tout en quoi vous dites qu'il est faussement un télo. Enfin, moi, ce n'est pas parce que ça parle de Shakespeare que ça se voudrait un télo. Le bah, film, il est dans une veine naturaliste, pas du tout un télo.
Le film se regarde un peu avec long.
Non, je pense qu'elle vise plutôt Jane Campion, mais sans avoir du tout les possibilités expressives de Jane Campion.
Le talent, tu veux dire.
Question habituelle, est-ce que dans le public, quelqu'un souhaite participer au débat concernant Hamnet de Chloé Zhao ? Non plus. Alors après Hamnet, on enchaîne avec l'affaire Bojarski de Jean-Paul Salomé. Yann Bojarski est un homme qui a bel et bien existé et qui fit trembler la Banque de France, comme le dit l'affiche du film. Nous sommes dans la France des années 40. Bojarski, Reda Kateb à l'écran, est un ingénieur polonais. Il a fui les prisons hongroises et fabrique de faux papiers pour qui en a besoin. Après-guerre, Bojarski tente de placer ses inventions visionnaires, le gars, par exemple, l'intuition du stylo à billes, mais toutes ces inventions sont refusées et non brevetées. Bojarski n'a pas la nationalité française et les patrons qu'il rencontre lui accordent peu de crédit. Il va alors mener une double vie, bon père de famille rangé des voitures auprès de son épouse, incarné par Sarah Giraudot, et faussaire génial de billets de banque. Mais l'inspecteur Mattei, joué par Bastien Bouillon, entre dans la danse pour le démasquer. Depuis sa sortie, ce film, l'affaire Bojarski, connaît un excellent démarrage en salle. Jean-Marc.
Oui, mais c'est vrai que le film est vraiment assez séduisant, très plaisant à regarder, et ça m'étonne pas qu'il marche. Moi, ce qui me plaît dans le film, c'est tout un imaginaire de littérature feuilletonesque du début du XXe siècle, un côté Gaston Leroux, et ça a toujours travaillé Jean-Paul Salomé, mais quand il essayait frontalement de s'attaquer à ce genre-là, ça donnait des films pas très bons. Je pense à Belphégor, par exemple, avec Sophie Marceau, qui était assez raté. Il a fait un Arsène Lupin avec Duris, qui était pas très bon. Et là, je trouve qu'il réussit son Fantômas sur une histoire qui, a priori, n'a aucun rapport avec Fantômas. Mais dans l'affrontement entre ce faussaire et Bastien Bouillon, qui est vraiment très drôle en commissaire à sa poursuite, il y a vraiment un côté commissaire juve Fantômas qui est vraiment rigolo, assez alerte, un peu trépidant. Donc j'aime bien le film comme expérience de visionnage. En même temps, ce qu'il dit, son discours me semble pas très satisfaisant parce qu'in fine c'est une réflexion sur l'art, c'est-à-dire que son idée c'est que Bojarski est un artiste, qui est une unité qui a été accréditée par le marché, puisque ces faux billets ont été vendus dans des ventes aux enchères comme des œuvres d'art. On disait un Bojarski, comme on pourrait dire un Van Gogh.
Cézanne.
Voilà. Mais je trouve que Salomé n'a pas une distance suffisante par rapport à ça, et qu'il résout ça dans une sorte d'apologie de l'artisanat, qui est presque un plaidoyer pro-domo de son propre cinéma, une espèce comme ça de valorisation du cinéma comme un artisanat où ce qui compte c'est la minutie, la précision, faire des objets comme ça qui rentrent dans un modèle, et je trouve que c'est une vision pas très stimulante du cinéma. Donc je dirais que le discours du film est pour moi un peu insatisfaisant, mais le film est assez plaisant et réussi.
Et puis il y a un discours politique aussi dans cette affaire Bojarski. Charlotte.
Oui, absolument, il y a un discours politique parce que finalement on se rend compte assez vite que Bojarski devient faussaire de génie, mais que c'est une vocation contrariée. Il est ingénieur, il est inventeur, et c'est parce que le déclassement
social... Ça prend des
heures
de vengeance.
Oui, parce que quand on était un immigré dans la France des Trente Glorieuses, on subissait un déclassement social, et que finalement, d'une certaine manière, il n'a pas eu d'autre choix que de se lancer dans cette affaire-là. Moi, je trouve que le film, oui, on peut lui reprocher une mise en scène peut-être assez classique, mais je trouve que c'est un classicisme extrêmement efficace, parce que l'histoire est tellement romanesque, ce personnage est tellement fascinant que moi j'ai été complètement conquise par la reconstitution assez minutieuse de son travail d'orfèvre sur la manufacture des faux billets. Ça a vraiment suffi à mon bonheur. Et puis je trouve que Reda Kateb, qui a quand même, qu'on voit très longuement seul, silencieux dans ce travail des heures et des heures dans sa cave, moi il me fascine complètement. Je trouve que par des petites intonations, par des regards, on sent à la fois la solitude de cet homme et la complexité du mec qui est obligé de se cacher, d'être dans le secret, et en même temps d'un besoin de lumière et de reconnaissance. Et c'est finalement son orgueil et son ego qui vont le perdre.
Muriel.
Je n'ai rien contre le film, mais bon. Non, après, je trouve qu'il avait de l'or entre les mains et moi, j'ai beaucoup pensé plutôt à une tradition américaine du film de gangster, de James Cagney à Arrête-moi si tu peux, de Spielberg. C'est-à-dire, c'est, en fait, la question pas du rêve américain, mais du rêve français. Et du coup, de qu'est-ce que c'est qu'être un immigré, mais qu'on ne viendrait codifier avec les règles du film de gangster. Puis évidemment, bon, Scorsese, mais voilà, cette idée que le gangster est une figure comme ça du rêve américain, appliquée à la France. Et donc, je vois des signes de ça, et je trouve que le film, quand même, se fait rattraper par un académisme du film historique. J'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'on en parle de cet académisme et qu'il est encore là. On n'est pas obligé de faire des films d'époque qui sont couleur jaune, jaunâtre. On n'est pas obligé. Et donc voilà, j'ai l'impression d'un film qui a une potentialité qui n'est jamais, qui est toujours virtuelle et qui n'est jamais actualisée. Et c'est d'autant plus dommageable que là, vraiment, il y a un très beau sujet, il y a un très beau personnage. Je trouve que sur même l'artisanat, comment on fabrique les billets, il aurait pu étendre enfin, moi, je veux en voir plus. On sait que les spectateurs aiment ça, aiment le détail de la fabrication. Il aurait pu y aller. Voilà, il aurait pu avoir un regard sur ce personnage un peu plus personnel. Et là, le film se fait complètement dévorer par les codes habituels du film d'époque.
Oui, mais toi, tu parles d'un gangster. Il n'est pas du tout gangster. Non, il fait mal à personne.
Non, parce qu'il n'y a pas de gangster en France.
Au pire, un escroc. Au mieux, un peintre, un artiste.
Vous voulez dire un hors-la-loi.
En fait, c'est le gangster comme métaphore et que tu peux, voilà, tu viens d'appliquer parce que
mais c'est la grande différence quand même.
Escamote aussi un peu la part criminelle quand même de ce qu'il fait.
Ah, oui.
Je trouve qu'il angélise beaucoup, quoi. Et enfin, 12 artistes, alors que. Et oui. Plus quand même malfaiteur.
Puis comme marche, quoi, en fait, les immigrés qui finissent dans la marche.
Et enfin, c'est un film politique. Bon.
J'ai pas dit ça.
Pierre.
Moi, c'est un film rassurant parce que je crois qu'il y a 50 ans, on faisait des films comme ça. Je pense que dans 50 ans, on fera des films comme ça. Et, c'est-à-dire des films où tout est impeccable. Le scénario est passionnant. La réalisation, elle est correcte. Jean-Paul Salomé, comme tu disais, un artisan, il fait ça très bien. Les plans, il fait beaucoup d'accélérés. Ça m'a étonné. Ça, je croyais que c'était fini, ça, le bol des petits accélérés comme ça. Mais il en fait quand même. Bon, c'est bien. Les interprètes sont tous très bien. Mais c'est ce qu'on appelait au moment de la Nouvelle Vague la qualité France. Alors, voilà, ben, je trouve ça pas mal, pas passionnant. J'admire beaucoup Sarah Giraudot, parce qu'elle arrive quand même à essayer de faire exister un personnage qui n'existe absolument pas. Le film est intéressant, bien sûr, devient intéressant lorsque, par un mystère du scénario que je ne m'explique pas, brusquement, Reda Kateb téléphone à Bastien Bouillot.
Mais l'attendit trop,
non,
Pierre.
Non, c'est au bout d'1h20.
Bah, justement.
Oui, mais ça dure 2h10, hein, je te signale.
Oui, mais enfin, 1h20, on est au plus de la moitié. Bon, on ne va pas entrer dans ces calculs.
Mais si, quand même, parce que là, c'est un petit peu ambigu, donc ça devient un peu intéressant à ce moment-là. Le reste est honnête au possible.
Une personne du public souhaite participer au débat sur l'affaire Bojarski de Jean-Paul Salomé. Oui.
Oui, une bonne histoire ne suffit pas, contrairement à ce que disait Jean Gabin. Cette histoire est formidable, j'en avais entendu parler quand j'étais enfant, mais je trouve que vous êtes très indulgent, c'est un académisme incroyable.
Mais vous l'avez trouvé indulgent.
Le décor, ça pue la naphtaline, c'est insupportable.
Merci Guy.
Écoutez... Reda Kateb, il n'a pas d'accent du tout polonais. Pierre Lottin non plus.
Ah si.
Ah si, Pierre Lottin a un accent.
Non, c'est pas parce qu'on est immigré polonais qu'on a un accent. L'accent du Nord et l'accent du Midi, c'est n'importe quoi. Et alors, au niveau des détails, je vais vous en donner deux. Fin des années 50, il n'y a pas de perceuse visseuse. Et puis, en début 60, le Solex 3008 n'existe pas encore. Voilà.
Merci, Guy. Madame.
Je voulais juste te dire que je vous trouve tous un peu durs parce que c'est quand même un film très divertissant. La reconstitution, justement, le mouvement des machines, voir Reda Kateb qui travaille sur ces machines, je trouve ça... Moi, j'ai trouvé que le film passe... Les 2 heures passaient très, très vite. Et donc, moi, j'encourage plutôt les gens à aller voir ce film qui fait du bien.
C'est entendu. Une dernière intervention devant...
J'en profite pour vous dire qu'il y a un épisode d'Affaires Sensibles consacré à Bojarski sur cette antenne qui est formidable.
Bonsoir. Alors moi, j'ai été absolument conquise par le film, justement, de bout en bout. J'ai trouvé que déjà que le casting était 5 étoiles, que tout se tenait extrêmement bien en termes, en tout cas, de scénario, un rythme haletant, vraiment un thriller qui est menée tambour battant. On a vraiment hâte d'en savoir plus. On ne s'ennuie absolument pas. Et vous parliez tout à l'heure d'angélisme. Je pense qu'on se projette, on se met à la place de Bojarski parce qu'en fait, il suscite l'admiration de tout le monde, jusqu'au commissaire de police. Et donc, il y a quelque chose peut-être, effectivement, qui est presque malsain, puisqu'en l'occurrence, c'est condamné et condamnable hein, par la loi de produire de faux billets. Mais on n'a pas envie qu'il se fasse prendre. Et en fait, on est tous et toutes, comment dire, pendus à l'action qui est en train de se dérouler. Voilà, après, effectivement, il y a des réactions qu'on entend dans le public et on vit vraiment les actions qui se déroulent dans le film. Concernant les machines et notamment les reconstitutions qui ont été extrêmement bien documentées historiquement, vous avez la possibilité de visiter l'exposition Faux et Faussaire en ce moment aux Archives Nationales où vous pouvez voir un véritable faux Bojarski et vous voyez également les schémas de la machine qui est reproduite dans le film. Voilà, je vous remercie.
Merci pour toutes ces précisions. Vous êtes nombreux à avoir vu ce film, monsieur.
Oui, très rapidement, donc, mais ça a été un peu évoqué. Il y a des références et même des clins d'œil conscients ou de façon inconsciente à des films anciens des années 60 et 70. Je pense à Melville, Le Deuxième Souffle, Le Cercle Rouge, L'Armée des Ombres. Et c'est toute une référence à la France des années 40 jusqu'à la fin des années 80. Le gang des tractions avant avec Florilège sur les tractions Citroën qu'on voit à plusieurs reprises. Et puis en même temps, il y a sur la fabrication du faux billet Bonaparte, il y a un formidable clin d'œil pour les gens qui s'intéressent à l'Empire. Il dit à un moment, j'ai essayé d'améliorer l'original. Alors, est-ce qu'il améliore le billet ou est-ce qu'il essaye d'améliorer l'image du premier consul? Si on repense à Chateaubriand, Mémoire d'Outre-Tombe, et à l'exécution du duc d'Enghien. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Merci pour toutes vos interventions. On va parler maintenant de Fursi né libre, deuxième long métrage d'Abdal Malik qui semble réunir un public jeune, d'après ce que j'ai vécu en salle. Après Ni chaîne ni maître de Simon Moutaïrou, c'est l'un des rares films français à traiter de la mémoire de l'esclavage. L'histoire se déroule à La Réunion, qui s'appelait alors l'île Bourbon. Fursi Madeleine, interprété par Makita Samba, est le fils d'une esclave qui ignorait avoir été affranchie lorsqu'elle le mit au monde. En 1817, Fursi décide d'engager une bataille judiciaire pour la reconnaissance de son statut d'homme libre. Les défenseurs de l'infamie du Code Noir et les partisans de l'abolitionnisme s'affrontent, notamment à travers deux personnages, Joseph Flory, ancien maître de Fursi, joué par Vincent Macaigne, et Gilbert Boucher, Romain Duris à l'écran, qui va devenir l'avocat de Fursi. C'est en partie un film de procès, qui met donc en valeur le verbe et le poids des mots, et le film est librement adapté du roman biographique de Mohamed Aïssaoui, intitulé « L'affaire de l'esclave Fursi ». Charlotte.
Moi, je suis très embarrassée par le film parce que, évidemment, il y a la force du sujet et évidemment que ça fait du bien de voir ces récits-là dans le cinéma français. Tu citais Ni chaîne ni maître, il y en a eu d'autres, il y a eu récemment, mais c'est vrai qu'on en manque et ça fait du bien. Il y a et la visée pédagogique et ce fameux devoir de mémoire et ce sujet, le fameux code noir ou l'esclavagisme français qui est une ignominie totale. Est-ce que le film est réussi pour autant ? Non, en tout cas pas pour moi. C'est-à-dire que je le trouve étonnamment très très désincarné. J'ai l'impression que tous les protagonistes de cette histoire sont chacun réduits à une idée et qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal, c'est-à-dire que c'est dans ces scènes de procès, il y a un jeu d'une théâtralité incroyable de la part de Romain Duris et Vincent Macaigne et bizarrement, ça ne produit rien, c'est une désincarnation totale. Fursi reste stoïque, obstiné, il est monobloc sur quasiment 30 ans de sa vie à l'écran. Par ailleurs, il n'existe à l'écran que dans ce combat judiciaire, jamais avec ses pairs. Sa sœur a été pourtant très importante dans l'histoire, elle l'a aidé dans ce combat, là on la voit quasiment jamais. Les autres esclaves n'existent pas. Et donc j'ai l'impression d'un cinéma extrêmement théorique et par ailleurs assez limité en termes de mise en scène, des contre-plongées constantes qui sont vraiment très très pénibles. Mais je retiendrai une image que je trouve très belle, là pour le coup visuelle, qui est le passage d'un ouragan qui l'ellipse complètement dans une sorte d'ellipse silencieuse que j'ai trouvée très belle. Mais sinon, le film ne m'a procuré aucune émotion autre que l'intérêt intellectuel de cette époque-là et de ce sujet.
Muriel.
Tu as oublié de parler du fait qu'il y avait Michel Esco. Michel Esco, je t'aime. Voilà, ouais. C'est très important de le dire.
La déclaration est faite.
Je vous aime, pardon. Je ne le connais pas. Non, je le
trouve. Oui, et Frédéric Pierrot, qu'on aime aussi.
Ouais, j'ai toujours frustrée parce qu'il a une présence à l'écran encore de second rôle. Et,
c'est un peu le Paul Dano français, moi, je trouve.
Ne dis pas ça. Jean-Marc, s'il te plaît. Ne gâche pas mon Michel Esco. Non, au-delà de ça, c'est vrai qu'on sent tout de suite qu'il y a une volonté d'édifier très forte et très compréhensible, et on sent qu'il y a une appétence du public pour une contre-histoire française, et il y a très peu de films sur l'esclavage à part Casse Départ et puis le téléfilm de Paul Vecchiali qui date des années 90, Victor Schœlcher. Voilà, j'en ai vu très peu, donc c'est normal qu'il y ait ce mouvement-là. Alors c'est forcément un mouvement qui va vers une volonté d'édifier, c'est-à-dire il faut raconter les faits, il faut raconter, voilà, il faut instruire le public, et ouais, c'est très noble. Et après, c'est vrai que le film essaye quand même d'être un film, et je vois que Abdelmalik essaye de... Voilà, contrairement à des films dont on a parlé, qui sont vraiment dans une sorte d'académisme très, très, très dur, on sent qu'il essaye de libérer la forme, de faire des plans, de travailler le montage. Ça ne marche pas toujours. Moi, ce que j'aime bien, l'idée, c'est de faire exister un personnage qui est forcément toujours silencieux et parlé par les autres. Comment on rend présent un personnage qui ne peut pas parler, qui en même temps est le héros, mais qui est parlé par les autres. Et donc, c'est les Blancs qui parlent et qui parlent beaucoup. Donc,
mais même dans son intimité, il est comme ça. Cette histoire d'amour, ouais, avec la préceptrice demanderait quand même un peu plus d'incarnation et de sentiment.
Mais de toute façon, je pense que le film veut édifier, et de fait, comme il veut édifier, on sait où il va, on sait ce qu'il va nous raconter, mais on essaye de faire contrepoids à toute une histoire qui n'existe pas.
On sait ce qu'il va nous raconter, mais c'est une histoire qu'on ignore pour beaucoup.
Donc c'est de la pédagogie, moi j'ai découvert des trucs. Après, voilà, il faut maintenant passer à l'étape suivante, c'est-à-dire injecter beaucoup plus de forme à l'intérieur de ces récits.
Pierre ?
Ben, c'est incritiquable, parce que dès qu'on fait la moindre réserve, on va être traité d'esclavagistes.
Mais
je connais certaines réactions. Non, mais ça m'a fait penser, curieusement, Jean-Marc, tu parlais au moment de Hamnet, là, tu sais, la représentation de Shakespeare. Ben, j'ai un peu eu l'impression de ça. Dans le Hamnet de Shakespeare, il joue Hamlet, et puis il y a des gens qui font ouh, et puis qui font ouais. Bon, et ben, c'est un peu ça. J'ai eu l'impression dans le film que le film était pensé, écrit volontairement, hein, et réalisé pour que, quand Vincent Macaigne apparaisse à l'écran, toute la salle se lève en disant « Ouh, salaud, salaud, quel salaud !» Et dès qu'il y a Romain Duris ou Frédéric Pierrot qui entrent en scène, les mêmes publics est censé se lever en disant « Ouais, vas-y gars, t'as raison, etc. » Il y a eu des pamphlets politiques en Amérique, même en France et en Italie, qui avaient une autre forme. Là, ça me paraît très faible formellement.
Jean-Marc.
Je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites. C'est vrai que le film se bat contre l'académisme, en fait. Il se bat contre les codes extrêmement stéréotypés du film en costume, en perruque, la raideur, la pesanteur qui va avec. Mais il le fait de manière assez maladroite, par à-coup, de manière très disparate. Tout à coup, il y a des effets un peu modernistes. Par exemple, pendant la plaidoirie de Romain Duris, tout à coup, il est plongé dans le noir, oui, pour le mettre en valeur. Et ça ne rentre pas dans une réflexion articulée sur la mise en scène. C'est des trouvailles. Et du coup, le film est très, très bancal dans sa forme. Et puis, comme le disait Charlotte, il y a vraiment un défaut d'accès à l'intériorité du personnage principal. Il est comme un figurant de son propre film, et à tel point qu'on se demande si c'est pas un effet de sens, si cet homme qui a été silencieux toute sa vie, effectivement, le film, à nouveau, va mettre autour de lui des personnages joués par des acteurs blancs très connus pour rejouer ça. Mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, en fait. Je pense que, au contraire, ça laisse une très très grande frustration, et on a une espèce de défaut de contact avec ce personnage principal.
Parmi les spectatrices et spectateurs du théâtre de l'Alliance française, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir pour Fursi né libre d'Al-Malik? Bonjour.
Bonjour. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que c'est un film à thèse. Moi, c'est un film à thèse qui m'a ennuyée, avec effectivement des contre-plongées systématiques et des personnages vraiment inexistants, notamment les personnages secondaires qu'on voit apparaître et disparaître aussitôt. Je vous recommande à tous de lire le livre de Mohamed Aïssaoui, qui est un essai l'affaire de l'esclave Fursi, que moi j'ai découvert en 2010 avec mes élèves, et nous avons même accueilli Mohamed Aissaoui. Et voilà, je garde un très très bon souvenir de cette lecture, et j'étais extrêmement déçue par le film. Voilà.
Une autre intervention pour Fursi n'est libre, d'Abd al-Malik.
Bonjour.
Bonjour.
Moi, je trouve que vous êtes assez dur avec ce film. Je trouve que c'est très important d'avoir ce genre de récit aujourd'hui. On en parle assez peu. Et je trouve assez dur avec l'acteur principal qui, pour moi, a donné une prestation quand même assez remarquable. Notamment la période où il est esclave dans une autre île où il subit quand même beaucoup, beaucoup de violence. Et au-delà de ça, je trouve que les scènes avec Romain Duris, la dernière scène, elle est très importante pour aussi comprendre de la complexité de cette époque. Et au-delà de ça, je trouve que la performance de Vincent McCain est très impressionnante, notamment dans sa douceur, en même temps dans sa violence de ses mots.
Et je précise que l'interprète de Fursi, c'est Makita Samba, je le rappelle. On passe donc, après Fursi n'est libre d'Abd al-Malik, à Diamanti.
Ah, c'est autre chose.
Oui, totalement. Du cinéaste turco-italien Ferzan Özpetek, film dont la sortie en France est annoncée comme suit. Le phénomène italien aux 2 millions de spectateurs. Les Diamanti, donc les diamants en français dans le texte, ce sont les actrices réunies à Rome par un réalisateur, à savoir Ferzan Özpetek lui-même à l'écran, et il leur dit « Vous êtes mes diamants, et avec vous... » Je vais... Pourquoi tu rigoles, Muriel ?
Tu as beaucoup aimé.
Donc, il leur dit « Vous êtes mes diamants, et avec vous, je vais réaliser un film... » sur le pouvoir des femmes. On est alors projeté dans les années 70, au cœur d'un atelier de costumes magnifique, pour le théâtre et le cinéma. Chacune des actrices interprète le rôle pour lequel elle a été engagée, la patronne de l'atelier, qui met tout le monde à la limite du burn-out, la star narcissique et les employés, dont le film détaille plus ou moins la vie. L'une est confrontée à des violences conjugales, l'autre est une rebelle, une troisième est amoureuse. Nous sommes donc dans le registre de la comédie dramatique et du mélodrame. Muriel ?
Alors moi, j'ai beaucoup de perversions, notamment j'aime beaucoup les objets, et c'est rare que ça nous arrive, des objets, les succès locaux qu'on ne voit pas habituellement. On a affaire souvent, tout le temps, au cinéma d'auteurs italiens, et là on a vraiment un pur produit local qui a fait 2 millions de spectateurs dans un pays qui globalement va très peu au cinéma, l'Italie. Donc voilà, ça, quelque part il y a presque une sorte de photographie.
D'où la curiosité.
Voilà, donc moi j'ai une curiosité pour ça, c'est une sorte de, voilà, de photographie de la psyché italienne. Bon, ça va pas du tout, mais le film, à partir du moment où on a accepté que c'était une sorte de telenovelas cinématographique un peu dégénéré, j'ai compris pourquoi le film marche, pourquoi le film fonctionne, dans ses atours comme ça, de film un peu almodovarien, puis de trucs à la fois surannés sur « Ah, vive les femmes, éloge des femmes, vous êtes les meilleures », et en même temps revisité avec une sorte de petite pointe de féminisme contemporain. Je trouve le film très, dans ses atours de « feel good movie », plutôt réussi, une fois qu'on a tout lâché, voilà, qu'on a tout débranché, tout le cerveau, il y a quelque chose qui fonctionne sur déjà les actrices entre elles, enfin le à la fois déjà ce truc de sororité comme ça complètement, le film arrive à la fois à être contemporain et complètement suranné, complètement daté, et je trouve que c'est une sorte de petite bulle temporelle. Il y a aussi, enfin c'est une recette qui fonctionne sur des trucs complètement identifiables, la haute couture, les années 70, c'est-à-dire qu'on a besoin complètement et de revenir à un âge d'or culturel complètement aboli, et en même temps tout ça, voilà, enrobé dans de la sororité bien contemporaine
et du sucre.
Bon, franchement, très sincèrement, à un moment, j'ai commencé à aimer le film et je me suis dit bon, je comprends, et le film ne fait jamais semblant d'être autre chose que cette grande tablée de voilà de d'actrices qui essayent de fabriquer ensemble un feel good movie, voilà. Entre tradition et modernité.
Pierre.
Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que je suis en contradiction absolue avec moi-même, puisque j'ai fustigé l'académisme de pratiquant.
Ah ben j'allais le dire, merci, voilà. Parce que dans le genre académique,
eh ben, j'ai le droit d'être en contradiction. Ouais. C'est un film totalement académique et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Enfin, je l'aime beaucoup, n'exagérons pas. Ça reste un film académique. Mais tout ce que tu as dit est exact, Muriel. C'est-à-dire, c'est à la fois un film sur la sororité qui est un thème très maltraité souvent au cinéma, et je trouve que là, il s'épanouit absolument forcément. Alors, oui, bien sûr, c'est un roman de gare, avec des personnages de roman de gare, mais par exemple, le personnage de cette petite intruse qui s'incruste dans sa maison de couture et qui brusquement se révèle une créatrice, je trouve que c'est une très très bonne idée. C'est un hommage évidemment un peu mou, mais quand même, au cinéma italien, puisque ça se passe dans les années 70, on entend la musique du Guépard, on parle de Ludwig, c'est cette époque-là, et en effet, il rend hommage à la fin de son film à trois actrices disparues avec lesquelles il espère travailler un jour, Monica Vitti, Mariangela Melato et la sublime Virna Lisi, et rien que pour ça, j'ai plein d'indulgence pour ce petit film, sans importance, mais touchant.
Jean-Marc, es-tu indulgent ?
Non, vraiment pas. Moi, je trouve le film vraiment très mauvais, mais surtout très prétentieux. Enfin, je vois pas du tout cet objet modeste dont vous parlez. La mise en abîme, c'est vraiment un procédé totalement ringard. Fait de cette façon-là, c'est-à-dire que ça n'est absolument pas une réflexion sur l'acte de raconter, c'est juste une coquetterie qui aboutit à ce que, vers la fin du film, le réalisateur traverse le décor désert de son film et tout à coup, comme des spectres, il y a des bribes de dialogue de son film qui lui arrivent et il est bouleversé par ses propres dialogues, il est bouleversé par son propre film.
Ben oui,
c'est dans le narcissisme d'auteur, d'une vanité qui est vraiment... Mais, affolante. Et par ailleurs, moi, je trouve que ce que dit le film est quand même très problématique. Le personnage donc, d'Alberta, la patronne, qui est vraiment au départ présentée un peu comme Meryl Streep dans Le Diable s'habille en Prada, qui est vraiment un personnage
sympa.
Odieux. Peu à peu, toutes ces ouvrières maltraitées au bord du burn-out vont réaliser qu'elles n'étaient pas odieuses, mais extrêmement exigeantes. Donc le film fait l'apologie de la tyrannie. C'est vraiment un film politiquement très
l'humanité des êtres, ça fait
chier. Non, oui, c'est l'Italie contemporaine.
Même des monstres, ils peuvent être humains, mon cher Jean-Marc. Je te l'apprends.
Charlotte ?
Moi, j'aurais aimé être comme Muriel et débrancher tout mon cerveau, mais je pense qu'un ou deux fils sont restés branchés et ça a été une souffrance. Tu parlais de sucre, Rebecca, je suis sortie de là totalement diabétique. Alors d'abord, les années 70, on ne les voit pas. C'est quand même filmé en studio de carton-pâte, épouvantable. Même les costumes, il n'y a pas un pli, pas un grain de poussière, tout est sorti des placards, c'est horrible. Cette patronne, effectivement, on pense à Meryl Streep dans Le Diable s'habille en Prada, elle est coiffée comme Jessica Rabbit, c'est ridicule. Le réalisateur se met lui-même en scène avec une autocomplaisance extrêmement embarrassante, effectivement avec cette double temporalité ou cette mise en abîme qui est totalement gratuite. Il va même jusqu'au générique de fin à avoir des photos sur chacune des actrices où c'est lui à côté avec cœur, love, love, tellement il aime ses actrices, c'est horrible.
Coucou et sinon, les selfies.
Vous avez quand même oublié le principal, elles sont toutes atrocement mauvaises. Il n'y a pas une bonne actrice dans ce film.
Ça, moi, j'aime bien.
Alors, tu parlais de telenovelas, mais on est à un niveau de sitcom vraiment effroyable, quoi. Non. Et alors, par ailleurs, si on veut rendre hommage au travail des petites mains des ateliers de couture, eh bien, il y a 2-3 ans, il y avait une formidable pièce, Lacrima, de Carolina Nguyen. C'est exactement le même procédé narratif, à savoir la confection d'une robe d'exception par plein de petites mains et les vies personnelles qui entravent tout ça. Eh bien, retournez ou voyez une captation de cette pièce, c'était quand même autrement plus intéressant.
C'était Jacques Becker Falbala, tu vois.
Oh, wow.
Ça va pas.
Une intervention du public pour Diamanti de Ferzan Özpetek. Alors, place au coup de cœur. Jean-Marc, quel est ton choix ?
C'est un documentaire diffusé sur Arte TV pendant quelques mois. C'est Un jeune homme de bonne famille, le nouveau film de Sébastien Lifshitz, qui s'inscrit dans un travail que Sébastien Lifshitz mène depuis une quinzaine d'années, qui consiste à faire des films, des portraits de personnes LGBT du troisième âge, et qui sont à la fois stigmatisées en raison de leur appartenance sexuelle, mais aussi à l'intérieur même, parfois, de leur communauté, en raison de leur âge. Et donc là, il va raconter la vie de Claude Loire, qui est un homme de 80 ans, qui vit dans les Pyrénées, et qui, dans les années 70, a vécu à Paris et est devenu un acteur de films X hétérosexuel. Et il raconte cette vie assez incroyable, extrêmement romanesque. En même temps, il évoque la France des années Giscard, le moment où il y a une espèce de frénésie de désir de voir des films porno qui passaient dans les salles normales à cet emparé de la France. Donc c'est un très beau portrait à la fois de notre histoire culturelle, mais aussi d'un trajet de vie extrêmement singulier et intense.
Un jeune homme de bonne famille de Sébastien Lifshitz que vous pouvez voir sur arte.tv. Muriel ?
Alors moi, c'est les mémoires de Robert Evans aux éditions Séguier. Séguier qui fait, la maison d'édition, fait tout un travail d'édition de livres que moi j'avais très envie de lire. Par exemple, le journal intime de Richard Burton, les mémoires de David Niven, un livre
Monica
sur Maurice Ronet. Voilà, Monica Vitti, plein de livres comme ça qui n'ont jamais été très traduits et qui le sont. Et là, Robert Evans, qui est donc un producteur qu'on connaît tous sans le savoir, parce que c'est lui qui a vraiment lancé le projet Le Parrain. C'est vraiment lui qui est à l'origine du projet et qui raconte, là, avec beaucoup d'humour, beaucoup de décontraction et sans automythologie et sans falsifier les faits, sa traversée du cinéma hollywoodien de la fin des années 60 jusqu'aux années 70-80. Et c'est vraiment ce que je trouve passionnant, c'est que c'est quelqu'un qui veut nous expliquer comment fonctionne le cinéma. Donc il nous explique ce que c'est l'étalonnage, ce que c'est être producteur, ce que c'est que discuter avec les studios, ce que c'est que discuter avec Francis Ford Coppola. On lui doit Rosemary's Baby, Chinatown, on lui doit Love Story, Marathon Man et Le Parrain, c'est évidemment ce qui est le plus intéressant dans le film. Dans le livre, pardon, dans le film aussi. On comprend qu'un grand producteur, c'est quelqu'un qui voit ce que les autres ne voient pas. Et donc Robert Evans va véritablement créer Le Parrain en mettant une option sur un roman qui n'est pas encore écrit, de Mario Puzo. Il va ensuite faire un film de mafia, alors que c'est un genre qui fait perdre de l'argent à tous les studios. Et il va sortir de son trou Francis Ford Coppola, qui fait aussi que des échecs. Et à partir de là, il va créer, comme ça, ex nihilo, Le Parrain, en comprenant qu'il faut que le film de mafia devienne un genre ethnologique et que ça sente les spaghettis. Donc voilà, je vous le conseille, parce que c'est passionnant et c'est très intelligent. Et c'est le regard qui nous manquait sur le Hollywood des années 70.
Les mémoires de Robert Evans, grand producteur hollywoodien, donc aux éditions Séguier. Pour ma part, je vous propose l'écoute d'un podcast qui ne permet pas de comprendre le métier producteur, mais qui permet de comprendre le son au cinéma. Ça s'intitule Écouter le cinéma, c'est disponible sur l'appli d'Arte Radio, et on y entend les témoignages de ceux qui fabriquent le son au cinéma. J'en cite quelques-uns, Pascal Villard, Guillaume Bouchateau ou Anne Le Campion, et les 5 épisodes de la série entrent non seulement dans la fabrication du son, depuis des films très anciens comme Le Cri de King Kong qui a été fabriqué avec un grand crin qu'on frottait contre une contrebasse, jusqu'aux innovations numériques, mais surtout ce podcast resitue la place du son dans des enjeux de mise en scène, avec plein d'exemples et de cinéastes qui sont autant de balises dans cette histoire sonore, de Blade Runner, dernier film de SF conçu avec des maquettes où là le rôle du son était de raconter le gigantisme d'une ville, à la filmographie de David Lynch qui lui par exemple mettait une ambiance sonore de nuit sur des images de jour pour créer de l'étrangeté. Donc c'est une série qui change et l'écoute et le regard. L'autrice s'appelle Laetitia Druard et elle a co-réalisé ses 5 épisodes de 20 minutes avec Samuel Hirsch. Écoutez le cinéma, c'est en accès libre sur arteradio.com. Pierre.
Alors, il faut sauver le cinéaste Michel Laizen, qui est un cinéaste...
Tu t'en charges.
Voilà, je m'en charge. Un cinéaste hollywoodien qui est mort en 1972 et qui, depuis sa mort, a été humilié, décrié, maltraité par tout le monde. Il était gay, alors ça plaisait pas beaucoup. Enfin, bref, Elephant Film vient d'éditer un coffret de 10 films et j'y ai découvert des perles. Par exemple, une comédie américaine avec Carole Lombard qui s'appelle « Jeu de main », mais qui est le meilleur. C'est aussi beau que du Hawks, du Lou Beach. C'est sublime, ce film avec Carole Lombard. Il y a un film de pirate. Moi, je suis pas fan de films de pirate, mais ce film de pirate qui s'appelle « L'aventure vient de la mer », c'est somptueux. Et puis alors, je finis par une comédie musicale, alors à la Busby Berkeley, vous savez, avec des 80 girls, des orchestres, des machins, des trucs. C'est sublime de beauté, c'est kitsch. Et c'est totalement kitsch et superbe. Et il a eu l'intelligence d'y coller une histoire de meurtre. C'est-à-dire qu'on est constamment, on cherche l'assassin et en même temps on voit des sublimes beautés. Écoutez, il faut vraiment redécouvrir et découvrir Michel Laizen, un coffret de 10 films à Elephant Film. Voilà.
Et on termine avec toi, Charlotte.
Eh bien moi, c'est une autre pépite qui nous vient du Québec. Ça s'appelle Amour Apocalypse de Anne Aymon. Une comédie romantique, mais alors comme vraiment vous n'en avez jamais vu, je pense. Histoire d'Adam, un quinquagénaire qui est propriétaire d'un chenil. Et il va pas bien, Adam. Il a pas de femme, il a pas d'enfant. Quand il pense à l'avenir, c'est pire parce que le monde va s'effondrer. Il est en pleine dépression et il est paralysé par une éco-anxiété assez tenace. Alors il s'achète une lampe de luminothérapie et à la faveur de cette lampe, il va rencontrer Tina. Et là, petite étincelle, tout va changer. Et alors le film prend des chemins totalement insoupçonnés. Le film est totalement imprévisible d'une séquence à l'autre. C'est assez bordélique, mais un peu à l'image du chaos du monde. Et c'est une comédie romantique totalement burlesque, mais avec beaucoup de tendresse, de mélancolie, un humour incroyable. Et c'est pas tous les jours qu'on voit des comédies romantiques avec un couple de quinquagénaires et un homme plutôt fragile, sensible, qui s'inquiète de l'avenir. C'est merveilleux.
Amour Apocalypse, réalisé par Anne Aymon. Charlotte Lipinska, Pierre Murat, Muriel Joudet, Jean-Marc Lalanne, merci d'avoir participé à cet épisode du Masque. Concernant les prix des auditeurs, vous pouvez continuer à voter pour votre meilleur film français et votre meilleur film étranger de l'année 2025 encore plusieurs jours en nous adressant un mail à l'adresse lemasqueetlaplume@radiofrance.com. Stéphane Le Guenec réalise Le Masque et c'était avec Cédric Chatelus, Nicolas Depagraf et Luna Bricotto aujourd'hui. Ilinka Negulesco assure la programmation et la préparation de l'émission avec l'aide de Zora Desgouttes. Dimanche prochain, nous débattrons de l'actualité de la scène avec des enthousiasmes ou des désaccords. Une liberté critique dans tous les cas. Avant ça, bonne semaine et à vendredi pour Totémique avec l'écrivaine Agnès de Sarthe.